Oui, alors, écoutez, je voulais, on va parler on va ouvrir la parole ensemble tout à l'heure. Je voulais donner quelques nouvelles de la mission pour laquelle je travaille, les GBUC, que plusieurs ont à cœur et soutiennent par la prière et aussi par des dons. Merci beaucoup, beaucoup à ceux qui peuvent. Donc, c'est une des missions qui travaille sur les campus parmi les étudiants. Ça, c'est une photo de nous. C'était notre camp d'hiver qui a eu lieu en début mars. Voilà, c'est l'équipe GBU qui vous dit bonjour. Oui, alors, on a été bénis cette année. Moi, je suis le directeur en passant et j'ai vu un vent de prière cette année qui a béni l'œuvre. Plusieurs des groupes dans différentes villes ont dit, on va commencer chaque session d'études avec une semaine de jeûne et prière. C'est quand même assez raide pour les jeunes du Québec. On n'est pas habitué à cette pratique. Mais on l'a fait et puis ça a vraiment aidé les groupes à s'unir, à être plus sensibles à l'appel de Dieu. Et puis il en est advenu plus d'enthousiasme pour l'évangélisation sur les campus. Voici une photo à droite, la jeune fille qui est à gauche. C'est une jeune Québécoise qui est récemment devenue chrétienne. Et qui a été formée comme nouvelle chrétienne sur le campus dans le groupe GBU à l'UDM, malgré beaucoup d'opposition de ses parents par rapport à sa nouvelle foi, mais elle a persévéré. Et puis ça, c'est une photo comme un repas qu'ils ont fait le jour de Pâques. C'était en après-midi. Elle a été baptisée dans une église de Montréal. Le matin, et ils ont fêté ça en soirée, en après-midi, entourés de ses frères et sœurs du groupe GBU et d'autres aussi. Et donc, c'est très réjouissant de voir des âmes venir au Seigneur. Et je pense que la prière est très importante parce que c'est quand même un milieu difficile d'évangélisation, les campus au Québec, mais pas impossible. On a eu quand même des bons moments dans quatre villes universitaires, Montréal, Trois-Rivières, Shawinigan, ça c'est la Mauricie, Rouyn-Noranda, ça c'est dans le nord-ouest, puis Saguenay, ça c'est dans le nord-est. Donc, on a eu plus de misère dans d'autres grandes villes comme Sherbrooke. Sherbrooke, on n'a pas eu de groupe cette année, mais c'est pour on va dire, une bonne raison qu'il y a d'autres groupes chrétiens qui sont sur les campus, puis on a dit, nous, on va leur laisser la place cette année. Même chose dans All Ottawa, l'Outaouais, et puis même chose à Québec. Donc, on est comme en stand-by, on aimerait ça être actif dans ces trois autres villes-là, mais cette année, on a été en stand-by. On a pu publier des livres récemment, mais je vous en ai déjà parlé. Si jamais ça vous intéresse d'en avoir une copie, venez me voir. Mais pas aujourd'hui, j'ai oublié de les amener. Mais je peux vous les amener la semaine prochaine. C'est un livre de réponse à des questions difficiles. La foi chrétienne est-elle raisonnable? L'autre, c'est plus des témoignages. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire sur les campus du monde entier? Une nuée de témoins. Ah oui, je vous avais invité à une soirée qui a été béni, bien que on aurait aimé plus de monde, n'est-ce pas, Jess? On a quand même eu une belle soirée, mais un samedi soir, il y a tellement d'activités que hein, des fois il y a moins de monde qu'on espère, mais c'est pas grave. On a parlé d'Urbana. Urbana, c'est une conférence missionnaire pour étudiants, mais ouvert à tous ceux qui ont 17 ans et plus. Si vous aimeriez réfléchir vraiment profondément en fonction de votre appel pour l'avenir dans la mission de Dieu, que ce soit dans un autre pays ou à Montréal. Urbana, c'est un vraiment bon endroit. Ça se passe en anglais, mais les sessions plénières, il y a une traduction en français et en espagnol et en russe et en peu importe votre langue. C'est vraiment un bon endroit pour vraiment entendre des conférences, aller à des ateliers, étudier la Bible pour vraiment lutter avec Dieu concernant quel est l'appel de Dieu pour ma vie. Et vraiment, l'œuvre de Dieu dans le monde est très grande et très multiple. Et donc, il y a quelque chose pour vous à Urbana. C'est aux États-Unis. Ça se passe du 27 au 31 décembre. Donc, c'est un peu fou. En pleine vacances de Noël, on part toute une gang. Il y a 20 000 personnes qui vont là. Et puis, on est devant Dieu. On est 20 000. C'est louer Dieu à 20 000. Entendre la parole de Dieu à 20 000. C'est vraiment extraordinaire. Ça se passe pas cette année. C'est décembre 2015. Donc, peut-être que notre église, on aura une petite délégation qui va descendre et puis vous pouvez faire partie de cette délégation, je pourrais vous donner des détails. Pour ma mission, la grosse prière, c'est que j'ai décidé de démissionner. Donc, ça fait 15 ans que je suis le directeur et c'est le temps pour moi de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai démissionné au mois de janvier, mais j'arrête mon travail comme directeur le 31 juillet. Donc, on est à la recherche d'une nouvelle personne. Je crois que le comité est en train d'interviewer des candidats actuellement. Priez pour que Dieu leur donne la sagesse. C'est un ministère exigeant. J'ai fait mon possible, mais la nouvelle personne aura de nouveaux défis vers lesquels amener ce ministère. Et moi, je vais rester un an de plus, enfin 6 mois, un an de plus, pas à plein temps, mais un jour par semaine, dans le but d'aider la nouvelle personne. Donc, priez pour moi, et ça veut dire que ceux qui soutiennent financièrement le GBU, l'Église soutient, donc ça veut dire que certains d'entre vous, je sais pas qui, font des dons à l'Église pour notre ministère, c'est très, très apprécié. Ça peut continuer après le mois de juillet pour me payer un jour par semaine, mais aussi, si jamais il y a un surplus, ça va aller au nouveau directeur. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai à cœur, qu'il y ait du soutien financier pour la prochaine personne. Donc, si quelqu'un aimerait continuer à soutenir le GBU, même après que je ne travaille plus pour les GBU, c'est aussi possible. Venez me voir, je peux vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pas bien compliqué, mais l'œuvre continue même après que je m'en vais. Puis juste que je voudrais que vous sachiez que moi, je l'ai beaucoup à cœur parce que c'est un petit peu mon bébé. J'ai passé 15 ans à travailler pour la pérennité, pour l'avenir de cet organisme qui vise à voir des étudiants découvrir Christ, devenir des disciples de Christ matures et des témoins épanouis dans le monde. La prière pour les GBU, mais c'est aussi pour nous. C'est Jésus qui a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, priez pour le GBU, mais priez aussi pour nos églises de l'Alliance. Car, même notre église, nous allons, dans les années qui viennent, être à la recherche d'un nouveau pasteur senior, ce qu'on appelle un nouveau pasteur senior, c'est le pasteur en charge. La raison, c'est que Michel, comme j'ai dit dans mon courriel, il va avoir 65 ans cette année. Lui-même nous a exprimé qu'il commence à être fatigué. Donc, il veut passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Et il y a plein d'églises au Québec dans cette situation qui déjà n'ont plus de pasteur et qui n'arrivent pas à trouver un pasteur pour prendre la relève. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, c'est quelque chose qu'on peut faire dès maintenant. L'autre volet de ce défi, je crois que Jésus nous dit « Priez pour des hommes et des femmes prêtes à aller, prêtes à œuvrer, mais priez aussi pour des chrétiens généreux qui peuvent faire en sorte que les églises puissent payer pour un ouvrier. » Parce que ça, c'est l'autre passage, ou pas l'autre passage, mais l'autre volet du problème. Il y a beaucoup d'églises au Québec qui ont besoin d'un pasteur, mais leur budget n'est pas suffisant pour payer un futur pasteur. Donc, voyez-vous, c'est comme, il faut prier aussi que nous, on devienne généreux pour que quelqu'un qui vient pour être pasteur puisse être payé convenablement. Et c'est un aspect de ce dont on va parler aujourd'hui dans mon sermon, la question de l'argent. Alors, vous êtes peut-être choqués par mon titre. J'ai fait exprès de mettre un titre un peu hérétique. L'argent fait le bonheur. Vous connaissez l'adage, le vrai adage, l'argent ne fait pas le bonheur, qui est vrai aussi. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais d'un autre côté, dans le royaume de Dieu, quand on regarde les choses du point de vue de Dieu, l'argent fait le bonheur. Je vais expliquer pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord de prier avec moi et pour moi, pour mon sermon? Vous voyez, déjà, c'est mal parti. Je mets un truc hérétique sur le tableau, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. Et je pense qu'à la fin, vous allez être d'accord avec moi. Prions ensemble, que Dieu nous guide. Oui, Seigneur Dieu, nous venons devant toi vraiment avec joie, mais aussi avec grande crainte. Moi, je vais parler maintenant d'un sujet où je me sens pas du tout un modèle, mais comme ta parole en parle, je suis obligé, nous sommes obligés comme Église d'en parler pour devenir meilleurs, pour devenir des chrétiens plus fidèles à ta volonté, dans le domaine de l'argent. Je prie que tu me guides. Je prie aussi que tu ouvres nos oreilles. Et que s'il y a des choses qu'on entend ce matin qui vont nous fâcher ou qui vont peut-être nous donner une réaction négative, eh bien, Seigneur, aide-nous à bien la gérer. Parce qu'on sait que toi, tu sais que l'argent, c'est quelque chose de sensible pour chacun de nous. Alors, guide-nous, Père, au nom de Christ. Amen. Alors, on y va? Et alors, déjà, premier commentaire, ce sermon vient de quelqu'un d'autre. C'est un sermon que j'ai entendu au camp GBU. Le camp GBU était intitulé « Y a-t-il une vie avant la mort? » Ça, c'est un autre jeu de mots parce que vous connaissez la question populaire des gens. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Il y a beaucoup de gens qui doutent de ce qu'il y a une vie après la mort. Nous, on sait qu'il y en a une. Mais beaucoup de jeunes chrétiens se posent la question, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? C'est, j'étudie comme un fou ou une folle pour être qualifié pour avoir une job, je passe beaucoup de temps à chercher une job, je rentre dans une compagnie, je dois courir comme une folle ou un fou pour avoir une place dans cette compagnie-là, je dois travailler très très fort pour trouver l'âme sœur, un conjoint, je dois travailler très très fort pour trouver une église qui me convient, je me marie, j'ai des enfants. La vie, on court. Je me sens vide à l'intérieur. Puis je me dis chrétienne, je me dis chrétien, y a-t-il une vie avant la mort? C'est une réalité. Donc, ce frère, François Pinard, qui est un homme qui a à peu près mon âge, puis qui a une vie de disciple très fidèle, et il est venu nous raconter comment il a vécu dans les 30 années de sa vie adulte après les études, comment il a développé sa relation avec Dieu, comment il a développé ses finances, comment il a développé sa vie d'église, comment il a développé sa carrière. Donc, c'est un homme d'affaires bien ordinaire, mais qui a été fidèle, et il a parlé de tous ces sujets et comment Dieu lui a donné la grâce d'avoir une femme et d'avoir des enfants. Il a raconté, c'était vraiment bien. Donc, pour ce qui est des finances, il a enseigné là-dessus, puis son sermon est dans gbuc.ca. Cliquez sur ressources, cliquez sur enseignement. Là, vous verrez François Pinard, Camp d'hiver 2014. Et le sermon que je vous donne ce matin, l'original est sur ce site, mais vous verrez que j'ai fait plusieurs changements, qu'il faut quand même que ça vienne de moi, là. Mais j'ai vraiment, moi, été béni par le sermon de François, l'enseignement de François, et donc je voulais quand même dire ma source, et vous pouvez l'écouter vous-même. Nous avons un tabou de l'argent dans notre société. Si je vous demande quel est votre sport préféré, il n'y a pas de tabou, normalement. Il y en a qui vont me dire, c'est le football, en parlant du soccer. Il y en a qui vont me dire, c'est le jogging. Il y en a qui vont... Et si je vous demande, par contre, combien d'argent tu gagnes par année? C'est très délicat. Je vous poserai pas la question. Parce que il y a un tabou là-dessus. Et il y a des bonnes raisons pour le tabou. C'est parce qu'on est malade à l'intérieur à propos de l'argent. Puis, tout le monde le sait. Il y en a qui gagnent beaucoup. Et puis, qui sont peut-être généreux, mais ils vont pas dire combien ils gagnent parce que ils se disent, oui, mais il y a peut-être quelqu'un de moins riche dans l'église qui va avoir de l'envie à mon endroit. Il y a des gens qui ont des besoins, mais qui vont pas le dire parce qu'ils vont dire, il y a peut-être d'autres qui vont me mépriser s'ils savent combien d'argent je gagne. Il y a toutes sortes de tabous comme ça. Et c'est notre réalité, donc je vais pas m'aventurer à vous demander votre revenu. Puis en même temps, qu'est-ce qu'on voit dans la Bible? Je crois qu'il faut qu'on le reconnaisse. Quand l'Esprit de Dieu vient inonder une communauté de fidèles, le tabou s'estompe, le tabou disparaît. Dans Actes 2, par exemple, au verset 45, on voit cette situation. La première communauté chrétienne à Jérusalem, Actes 2, 45, je vais pas le lire, mais on voit que les premiers chrétiens, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ils se mettent à partager leur argent et leurs biens. Personne ne sentait que leur possession était à eux, mais se sentait comme si ça appartenait à toute la communauté. Et il y a eu un bref moment dans l'histoire de l'Église primitive où tout le monde partageait. Et les pauvres n'étaient pas envieux des riches, puis en même temps, les riches partageaient avec eux ce qu'ils avaient. Tout le monde était heureux, tout le monde était content avec ce qu'ils avaient. Et c'était merveilleux. Puis, petit à petit, on voit que, à cause de la nature pécheresse des humains, les problèmes recommencent. Et Ananias et Saphira, déjà très peu de temps après, il y a un problème parce que les gens commencent à être cachetiers avec l'argent. Le tabou revient. Puis, on voit dans toute la Bible que notre Dieu, qui inspire les prophètes, parle d'argent, puis quand parle, Dieu parle d'argent, c'est toujours franc et transparent. Je pense, par exemple, à Amos chapitre 5. Amos chapitre 5, c'est très intéressant. C'est un chapitre de justice sociale. Un prophète dans l'ancien Israël, où Dieu, il parle dans le casque aux gens qui viennent adorer dans le temple, il leur dit, c'est horrible, puis c'est vrai en même temps, Dieu dit au peuple de Dieu, je déteste vos cantiques. Aïe, aïe, les gens viennent pour adorer Dieu dans le temple avec de la musique. Il dit, parce que le reste de la semaine, vous négligez les pauvres et vous les exploitez. Il n'y a pas de justice sociale dans votre ville. Quand vous venez dans le temple pour m'adorer avec des beaux cantiques le dimanche, il dit, je les déteste. Et vos sacrifices, je peux pas les supporter. Ça fait mal, parce que nous aussi, comme chrétiens, on aime ça, venir donner un sacrifice de louange, mais l'Esprit Saint, par sa parole, nous rappelle un aspect encore plus important de la louange. Qu'est-ce que vous faites de la justice sociale le reste de la semaine? Dans la Bible, l'argent n'est pas un tabou. Parce que pour Dieu, l'argent n'est pas un tabou. Et pour Jésus, l'argent n'est pas un tabou. Quelqu'un a calculé que 15% de l'enseignement de Jésus, il va parler d'argent, soit directement ou soit comme exemple, pour parler de d'autres réalités en général, y compris l'argent. 15%, c'est quand même beaucoup. Pour Jésus, l'argent, c'est quelque chose d'en fait positif, parce que c'est un outil entre les mains de personnes généreuses pour faire beaucoup de bien. Ça ne veut pas dire qu'on en a besoin, mais si de l'argent tombe entre tes mains, c'est une chose très positive pour vraiment bénir, pour vraiment amener de la justice, pour vraiment glorifier Dieu. Mon attitude envers l'argent, dit Jésus, c'est le signe de quelque chose de très profond en moi par rapport à ma relation avec Dieu. Et c'est quelque chose qu'on pourrait explorer. L'enseignement de Jésus sur l'argent, c'est pas mon sujet de ce matin, l'enseignement de Jésus spécifiquement, mais on pourrait y revenir un jour. Quand on dit « l'argent ne fait pas le bonheur », c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans la vie de tous les jours, qu'on soit chrétien, pas chrétien, il y a d'autres choses plus importantes que l'argent. Donc, casse pas, tu sais, comme mets pas toute ton énergie à courir après l'argent, tu pourrais être très déçu. Un désastre arrive dans ta vie. Peut-être que tu vas perdre beaucoup d'argent, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Je pense à ceux aux États-Unis qui ont tout perdu dans les ouragans, les tornades qui sont arrivées il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Mais on voit que qu'est-ce qu'ils disent, c'est ma famille est encore vivante, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma business. C'est vrai qu'ils ont peut-être aussi une compagnie d'assurance, une police d'assurance, mais ils vont souvent dire, nous sommes encore vivants, c'est juste des biens matériels puis de l'argent qu'on a perdu. Puis en même temps, on dit ça, l'argent ne fait pas le bonheur, mais si je mets 90% de mon énergie à courir après l'argent, simplement parce que j'ai des factures à payer, j'ai des enfants qui ont des cours d'art et des écoles et des j'ai moi-même, j'ai le gym à payer, j'ai la télévision câble à payer. Je passe 90% de mon temps à courir après l'argent. Donc, est-ce que je suis esclave de quelque chose qui fait pas mon bonheur? Un peu. Donc, je pense qu'on est pogné dans une vie que on sait intellectuellement qu'on veut pas. Je voudrais qu'on explore ça ce matin. Parce que l'argent n'est pas, en fait, incompatible avec la santé de l'âme, avec le service de Dieu. Bien plus, une vie chrétienne en santé implique une relation positive et fructueuse avec l'argent. Ce que je veux dire de manière assez générale, c'est que peut-être l'argent ne fait pas le bonheur, mais je crois qu'on peut développer une relation positive avec l'argent. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris de la parole de Dieu là-dessus. En fait, je résume mon sermon ainsi. Si vous voulez retenir au moins une chose, retenez cette page-ci ou cette diapo ici. Si je comprends que mon argent appartient non pas à moi, mais à Dieu, et que Dieu veut que j'en donne le plus possible, Dieu veut que j'en donne le plus possible pour bénir les autres, en particulier les gens plus pauvres, et en particulier à l'œuvre de Dieu, eh bien, cela va générer du bonheur dans le cœur des autres, dans mon cœur aussi, puis surtout dans le cœur de Dieu. Je vais relire ça. Si je comprends que mon argent appartient non à moi, mais à Dieu, et que Dieu veut que j'en donne le plus possible pour bénir les autres, en particulier aux pauvres et à son œuvre, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, cela va générer du bonheur. Bonheur dans le cœur des autres, dans mon cœur, dans le cœur de Dieu. Donc, ça, c'est le résumé de ce que je vais dire. Et si vous n'êtes pas d'accord, on pourra en parler par la suite. Si je suis pas trop long, puis c'est pas mon don, peut-être on pourra avoir un temps de questions-réponses, de discussions à la fin. Dieu nous appelle à la générosité. Regardons maintenant pourquoi je dis que Dieu nous appelle à la générosité. 5 fondements de la générosité dans la Bible. On va les regarder un par un. C'est juste comme l'échafaudage derrière ce que je dis ici. La Bible nous appelle à la générosité. Que l'on soit riche ou pauvre, ça n'a pas d'importance. Premièrement, il faut qu'on soit convaincu que tout appartient à Dieu. Je donne 4 ou 5 versets ici pour le prouver. Toute la Bible parle du fait que tout appartient à Dieu. Genèse 1, verset 1. C'est un livre qui est traduit par cœur. Au commencement. Non, ça c'est Jean. Mais Genèse dit au commencement, Dieu créa. Exact. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a tout créé. C'est important, ça, comme ça a des implications quand même assez larges. Au commencement, Dieu créa tout. Psaume 24, verset 1, commence avec cette magnifique exclamation. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. J'aime le fait que ça dit la terre, parce que moi j'étais récemment avec des étudiants qui sont à Rouyn-Noranda, ils se préparent pour travailler dans l'industrie minière. Puis vous savez comment ça fonctionne au Canada, l'industrie minière, puis je suis sûr que c'est comme ça dans d'autres pays, c'est que ces compagnies-là ont le droit d'aller explorer des terres qui, sur papier, on va dire, appartiennent au gouvernement. Mais s'ils découvrent qu'il y a de l'or ou du nickel comme en dessous, ils vont au gouvernement et avec leur rapport de recherche et ils disent, moi, je voudrais acheter les droits miniers sur ce territoire-là de 1000 km² ou je sais pas quoi. Et puis, pour un prix pas tellement élevé. Ils ont les droits exclusifs sur cette région-là pour aller chercher l'or et l'argent et le nickel ou whatever pour vraiment une longue période de temps. Et après ça, eux, ils se disent, ça nous appartient, on a payé les droits, ça nous appartient. Et évidemment, ils fonctionnent en termes ils pensent en termes de profit. Ce que je veux dire, ce serait pas mauvais de leur rappeler ce verset. Oubliez pas, là, que cette terre-là, OK, le gouvernement canadien vous a donné le droit d'exploiter, ça va, c'est bon, c'est bon en partie parce que ça va permettre à avoir des minerais pour que des industries puissent créer des choses, créer des jobs. Mais pensez pas, là, que ça vous appartient vraiment. Vous avez une gestion à faire quand même sous le regard de Dieu, là. Donc, si vous détruisez les forêts, puis les peuples amérindiens qui habitent par là, loi sont obligés de déménager, que ça pollue, etc., 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 oubliez pas que tout appartient à Dieu. Agée 2.8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ça, ce passage-là, il est intéressant parce que c'est le prophète qui est en train de dire ça à ceux qui sont en train de rebâtir le temple. Puis, ils ont de la misère. Ils ont de la misère. Le début du chapitre, il dit, vous travaillez fort pour organiser le peuple, pour bâtir le nouveau temple. Puis vous trouvez qu'il est tout petit à comparer à l'ancien temple qui a été détruit. Puis Dieu leur dit, découragez-vous pas. Il va être encore plus majestueux que l'ancien temple. Et là, il dit, oubliez pas, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Je vais susciter des dons dans le cœur des gens pour que vous allez réussir dans votre projet de rebâtir le temple. 1 Corinthiens 4:7, un autre passage qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» C'est par rapport aux dons spirituels, mais ça s'applique aussi à l'argent. Tout ce que je reçois, y compris mes dons, mais aussi mon argent, c'est Dieu qui me l'a donné. Puis, je les gère pour Dieu, n'est-ce pas ? Amen. C'est des choses simples, mais on a de la misère à les vivre. N'est-il pas plus facile de se départir d'une possession de quelqu'un d'autre plutôt qu'une des miennes? Pour être généreux avec mon argent, si je suis convaincu que c'est pas mon argent, mais que c'est Dieu qui me l'a confié pour que je le gère pour lui, je crois que ça va être plus facile de le donner, surtout que si c'est lui qui me demande à être généreux. Ça, c'est le premier fondement. Tout appartient à Dieu. Deuxième fondement, Dieu lui-même est généreux et nous appelle à l'imiter. Jacques 1:5. Là, on parle de la sagesse. Qu'est-ce qu'on fait si on a une décision importante à prendre puis on ne sait pas quoi faire? L'apôtre Jacques nous dit, enfin l'apôtre, le pilier Jacques, il écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu donne à tous simplement et sans reproche. C'est l'image de quelqu'un qui cherche les occasions de pouvoir partager ses richesses. Dieu est généreux. Comme, venez me demander la sagesse. J'en ai plein à vous donner. Ça va être simple. Je vais pas vous faire de reproches. Juste demandez-moi, puis je vais vous la donner. Il faut demander avec foi, mais il faut demander. J'ai un voisin comme ça. Je comprends pas pourquoi, mais il est très, très généreux. Il est toujours en train de me dire qu'est-ce qu'il a. Puis il dit, une fois, il est venu me dire, j'ai un chalet dans la Beauce. Et puis, on n'est pas là souvent. N'importe quand que tu veux y aller. viens me voir, je te passe les clés. Je suis allé, on est allé, on a eu bien du fun. Mais c'est rare, les gens comme ça. Une autre fois, il est venu me voir, il dit, j'ai 1000 DVD de films chez nous. Nous, on en regarde beaucoup, mais jamais tu veux regarder un film que tu l'as pas, au lieu d'aller payer 5 piastres pour le louer, viens, demande-moi. Puis, je demandais pas, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé par courriel son catalogue de films. Et alors, pour y faire plaisir, j'ai emprunté deux films, mais je suis mal à l'aise avec sa générosité. En tout cas, il me parle, il me dit, OK, Dieu, il est comme ça. Dieu, il est généreux. Et puis, Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire, développez la générosité. Votre Dieu, là, votre Père Céleste, il est vraiment généreux. Troisième fondement, le cœur de Dieu est penché vers les pauvres. C'est très, très important dans la Bible. Et nous qui sommes riches, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça par la prochaine diapo, on l'oublie très vite. Psaume 76, versets 9 et 10, c'est un psaume qui montre une image du jugement, dernier, puis c'est assez effrayant. Et ça dit, la terre effrayée s'est tenue tranquille au jour du jugement, là. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Et dans certaines traductions, le mot malheureux est traduit par pauvre, parce que le mot hébreu peut avoir les deux sens. Souvenez-vous de l'histoire du riche et du pauvre Lazare, qui est dans Luc 16. On va manquer de temps pour le lire, mais c'est une histoire vraiment importante. Le riche se retrouve dans les flammes parce qu'il y avait un pauvre qui habitait devant chez lui, un pauvre qui avait des ulcères que le riche a négligé, a complètement bafoué le besoin humain qui criait à lui à chaque jour. Il l'a ignoré parce que c'est pas pratique d'aider les pauvres. Et dans la conversation qui suit entre le riche et le père Abraham, qui est comme une image du jugement dernier, ben, on voit que la seule raison qui est évoquée pour la punition du riche, c'est qu'il a ignoré, le pauvre. Il a gardé sa richesse pour lui. C'est raide pas mal, parce que nous sommes une église qui prêchons le salut en Jésus-Christ éternel, la vie avec Dieu pour toujours, par la foi seule, sans les œuvres. C'est le message qu'on prêche. Puis j'y crois. Mais comment est-ce que ça peut s'harmoniser avec cette histoire? Moi, mon explication, c'est que oui, le salut, c'est par la foi seule. On vient à Christ tout nu. On vient à Christ tout nu et on dit, je suis un pécheur, sauve-moi, et il nous sauve. Mais il faut que notre foi s'exprime par la repentance. Puis on a toute une vie à se repentir. Et puis on doit grandir dans la repentance. Ça veut dire que maintenant, peut-être t'es déjà sauvé, mais peut-être que Jésus, il frappe à ta porte, puis il dit, je veux cette semaine que tu fasses un pas de plus dans la repentance. Par exemple, avec la manière que tu gères l'argent. Et puis, dans sa grâce, Christ t'appelle à aller plus loin. Pourquoi? Pour ressembler de plus en plus à Dieu. Donc, l'homme ou la femme qui dit, ah ben moi, je suis sauvé, j'ai reçu Christ comme sauveur et Seigneur personnel, il y a 15 ans, je m'en fous du reste parce que j'ai d'autres projets. Je veux m'enrichir, je veux vivre à ma tête. Jésus frappe à la porte, il n'écoute pas. C'est comme, je m'inquiète je m'inquiète pour cette, pour ce frère, pour cette sœur. Peut-être est-ce un faux frère? Peut-être c'est quelqu'un qui a jamais vraiment reçu Christ, parce que nous sommes appelés à une repentance grandissante. Voici l'autre photo qui fait peur, l'autre diapo qui fait peur. Sommes-nous des riches ou des pauvres? Ça, ça vient du site aidehumanitaire.org. C'est un schéma qui indique le produit interne brut par habitant de tous les pays du monde. Le produit interne brut, c'est la quantité de richesse interne générée par pays. Puis ça, c'est le produit interne brut divisé par le nombre d'habitants. Donc, les pays qui sont en noir, on les voit mal, mais il y en a pas beaucoup, OK? C'est ceux que le produit interne brut, c'est 35 000 $ et plus par habitant, généré comme richesse. Voyez, la Norvège en haut en fait partie. Il y a quelques autres pays. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la prochaine couleur, c'est comme le mauve un peu rouge, le mauve comme, voyez que le Canada et les États-Unis en font partie, mauve rouge. Ça, c'est les pays que c'est entre, c'est entre 35 000 et 50 000. Je me trompe. OK, j'avais raison la première fois. Noir, c'est 35 000 et plus. Mauve, c'est entre 20 et 35 000. Bleu foncé, c'est entre 10 000 et 20 000. Bleu clair, c'est entre 2 000 et 10 000. Blanc, c'est moins de 2 000. OK? Donc, le Canada, qui est un petit pays au niveau de la population, on fait partie de ceux qui sont entre 20 et 35 000. J'espère que j'ai pas mal recopié. C'est, en tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est que si tu habites au Canada, que tu as une maison ou une voiture ou les deux, que tu as du linge dans ton garde-robe et que tu as de l'argent en banque, tu fais partie du 3% des plus riches de la planète. Et je dis ça sous toute réserve. Je sais que dans notre église, il y a des gens qui en arrachent beaucoup financièrement et d'autres que ça va bien financièrement. Je dis pas le contraire. Je dis pas qu'on est tous égaux, mais je dis que nous, le fait qu'on habite au Canada fait que, à différents degrés, on fait partie des plus riches de la planète et on a une responsabilité non seulement envers les pauvres de notre ville, mais aussi les pauvres d'autres pays. Je poursuis. Le temps avance trop vite. Fondement numéro 4. Le cœur de Dieu est non seulement pour les pauvres, mais pour l'avancement de son évangile, l'avancement de son œuvre. Philippiens 4:10 dit ceci, et c'est Paul qui écrit à une église qui vient de lui envoyer de l'argent, l'église des Philippiens. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Et le contexte nous explique qu'il parle de leurs dons financiers. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. En fait, il est en prison à l'époque, donc il est vraiment dans la misère. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde dans votre, pour votre compte. C'est comme si devant Dieu, chacun de nous a un compte, et puis quand on fait un acte de générosité, Dieu voit ça, puis c'est comme, Wow, Dieu est heureux de nous autres parce qu'on notre compte générosité, il y a comme cling, il y a un plus et ça réjouit Dieu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas. Ah, parfait. Il y a la joie quand on est généreux pour l'œuvre de Dieu, pour un missionnaire ou une église ou autre. Il y a la joie de Dieu devant l'œuvre de la prédication qui avance, devant un partenariat entre les enfants de Dieu. Ça réjouit Dieu. Ça réjouit Dieu aussi que les donateurs grandissent en générosité. Ici, c'est les Philippiens. Mais on sent aussi la joie de Paul devant toutes ces choses. Je suis sûr qu'il se réjouit que « Oh, j'ai finalement reçu de l'argent, je vais pouvoir envoyer quelqu'un pour m'acheter du nouveau linge, pour m'acheter du souper, parce que les prisons à l'époque ne fournissaient pas de bouffe ou de linge. » Mais il dit ici, en fait, ce qui me réjouit plus, c'est que je vais pouvoir continuer mon œuvre et aussi que vous grandissez spirituellement. Il y a un fruit qui abonde pour votre compte. Et je le crois. Je crois qu'il n'est pas en train d'être hypocrite. Il est en train de dire sincèrement, je me réjouis pour le fruit qui grandit chez les autres. Et j'ose croire que les Philippiens qui ont lu cette lettre de Paul se sont réjouis aussi. Je crois que vous savez de quoi je parle. Quand vous avez eu l'occasion un jour d'être généreux envers quelqu'un, et vous avez senti, ah, ça vient de Dieu, ça a béni la personne, Dieu est content. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être vraiment content d'avoir pu être généreux? Oui? Vous savez de quoi je parle? Bon, c'est merveilleux d'avoir cette opportunité. Et le cinquième et dernier fondement, ma générosité doit se développer. C'est pas juste en savant, en mémorisant les signes que vous allez grandir, mais c'est en prenant action. Le psaume 76 dit, faites des vœux à l'Éternel. C'est le même psaume qui parlait du jugement dernier. Il dit, comment réagir? Mais écoutez, c'est Dieu qui parle, vous les humains. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui environnent Dieu apportent des dons au Dieu terrible. Alors, faites des vœux, ça veut dire comme décidez dans votre cœur et dites à Dieu, OK, j'ai réfléchi, je vais faire tel acte de générosité. Puis faites-le. N'oubliez pas de le faire. C'est très, très important. Zachée, quand il s'est repenti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Jésus, écoute, j'ai compris, Dieu m'aime, je suis un voleur, j'ai passé ma vie à voler les citoyens, j'ai compris, Dieu il me pardonne, je vais donner la moitié de ma fortune aux pauvres. Il a fait un vœu, et puis j'ose croire qu'il l'a fait. Donner, c'est parfois faire un pas de foi. Malachie 3:10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Ma générosité se développe par les décisions et les actions. Notre temps est écoulé. J'avais des choses d'autres à vous dire, mais je ne veux pas vous épuiser. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Un effort que j'ai fait il y a deux semaines pour mettre en pratique mon propre sermon. Une tentative qui a un peu floppé. Floppé en québécois, ça veut dire ça n'a pas marché. juste pour vous montrer comment nous, les humains, on prêche des affaires, puis Dieu nous rappelle aussi, écoute, oubliez pas que je vous accepte par grâce, et puis que vous n'êtes pas parfait, mais continuez à travailler. Moi, j'ai dit, OK, je vais faire un effort, parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire ce que je viens de dire? C'est en simplifiant notre vie. OK? Moi, je veux pas vous dire, OK, je vous demande d'être généreux, donc abandonnez votre job pour trouver une job encore plus difficile et qui paye plus. Vous allez être pris dans l'engrenage. C'est pas nécessairement ça la solution. La solution, c'est beaucoup plus, enfin, une solution. Qu'est-ce que je peux faire pour simplifier ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mes dépenses? J'ai peut-être des faux besoins. Qui fait que je peux garder mon revenu, diminuer mes dépenses et donner plus. C'est un peu ça la stratégie que je voulais vous proposer ce matin. Voici un truc que moi j'ai essayé. Je me suis dit, OK, on a la télévision câble chez nous. On a pris 10 postes supplémentaires à Noël parce que c'était un cadeau de Noël. Mais les émissions qu'on voulait écouter sont terminées, dont le hockey. Et on s'est dit, ben, OK, c'est 10 postes-là pour la compagnie en question, ça coûte 20$ par mois. On peut les éliminer. Puis, comme ça, je vais sauver 20$ par mois. Et puis, comme ça, ça sera 20$ par mois. De plus pour l'œuvre de Dieu. Vous me suivez? C'est simple, non? J'appelle la compagnie dont je vais cacher le nom parce que, en tout cas. Et puis, bonjour, tout ça, vraiment gentil, tout. Voilà, monsieur, les 10 postes de plus que j'ai pris en décembre, je veux les annuler pour diminuer ma facture de 20$ par mois. Et il dit, OK, pas de problème, je vais juste vérifier. Là, il me revient, il dit, c'est impossible, monsieur. C'est impossible. On a une nouvelle politique, et entre parenthèses, qu'il a pas dit, c'est moi qui ai compris, une nouvelle politique qu'on vous a pas dit en décembre, c'est que vous avez pas le droit, quand vous augmentez le nombre de postes de câble, vous avez pas le droit de revenir en arrière. J'ai dit, quoi? Ce qu'on m'a dit, c'est que tu as 10 postes de plus, tu payes 20$ par mois. Puis la madame m'a dit, vous pouvez les annuler en tout temps. Elle dit, oui, vous pouvez les annuler, mais votre facture changera pas. C'est une nouvelle politique. Oh là là, j'ai passé, je pense, 2 heures au téléphone. J'étais tellement fâché. Et il est allé voir son boss, impossible à changer finalement. J'ai pu diminuer de 5 postes pour diminuer ma facture de 12$, de 8$. OK, donc au lieu de sauver 20$, je sauve 8$. J'étais tellement frustré. Donc, au moins le Seigneur a vu que j'ai fait un effort. Mais voyez qu'on vit dans un monde que peut-être toi, tu veux sauver de l'argent pour donner de l'argent à l'œuvre de Dieu. Mais c'est comme il y a des besoins autour de nous, il y a des gens demandants autour de nous. Parfois il y a des gens un peu voleurs autour de nous qui font que on n'a pas d'argent de plus à donner à l'œuvre. Alors, mais ce que je vous dis, c'est que Dieu nous demande de faire cet effort pareil pour bénir l'œuvre de Dieu. Je vais continuer pareil à trouver des moyens pour faire ce que Dieu me demande. Parce que, et puis je vais arrêter là-dessus, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et il y a des exemples et je pourrais vous raconter des histoires que j'ai entendues des gens qui ont vraiment fait des pas de foi pour changer leur vie, pour devenir extrêmement généreux pour l'œuvre de Dieu. Et c'est à cause de ce qu'ils ont fait que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes tous appelés à cette générosité, à ce risque de la foi, que Dieu nous vienne en aide pour devenir chacune et chacun ces disciples de Jésus qui avancent par la foi et qui deviennent généreux avec leur argent. Amen. Prions ensemble, puis je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher. Père, merci. On a pu passer à travers. Peut-être qu'il y a des choses importantes que je n'ai pas vues et que je n'ai pas dites, mais c'est un premier pas. Nous te prions, nous qui sommes matérialistes, qui vivons dans une société qui nous pousse à dépenser, qui nous fait oublier notre frère, notre sœur qui a des besoins, qui nous fait oublier les autres pays. Jésus, nous te demandons pardon. Jésus, nous te prions, aide-nous à être humbles puis à développer cette générosité. Puis s'il y a quelque chose que déjà on pourrait faire cette semaine pour devenir plus généreux pour ton œuvre ou pour notre famille ou pour des personnes dans le besoin autour de nous, eh bien Seigneur, donne-nous de pouvoir le voir et le faire. Et merci parce que tu nous promets de pourvoir à nos besoins, de nous aider aussi à vivre avec les ressources qu'on a. Père, aide-nous à devenir généreux comme toi. On te prie au nom de Christ en te disant merci. Amen.